Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
De quoi je suis coupable? D'avoir fait mon devoir de citoyen russe? De politicien? De patriote russe? J'ai parlé honnêtement, j'ai dit la vérité sur cette guerre, en attirant l'attention du public sur les crimes de guerre commis par les troupes de Poutine dans la ville ukrainienne de Boutcha.
Depuis la mort de son ami Alexei Navalny le 16 février 2024, Ilya Yashin apparaît comme l'une des figures principales de l'opposition en Russie. Homme politique, militant des droits de l'homme comme Navalny, il est emprisonné depuis 2022 pour avoir dénoncé les massacres de civils par l'armée russe en Ukraine.
Poutine est un criminel de guerre et il doit être derrière les barreaux. Je suis l'homme qui s'est élevé contre cela.
Avec Yashin, chaque audience, chaque condamnation est une tribune anti-Poutine qu'il signe courageusement d'un V de la victoire souvent adressé à ses partisans dans la salle. Alors au lendemain de la réélection de Vladimir Poutine en 2024, pour un cinquième mandat, à 71 ans, je me suis dit qu'on allait profiter de l'expertise de Véronika Dorman, journaliste à Libération, spécialiste de la Russie que vous connaissez pour avoir écrit notamment la saison 2 de l'affaire dédiée à la force Wagner, et on va essayer de mieux apprendre à connaître dans cet épisode cet opposant au sourire si caractéristique. Je suis Sinamir, et vous écoutez Ilya Yashin, l'ombre de Navalny.
C'est un vrai vétéran de la vie politique, même du poutinisme, parce qu'il a fait ses armes, il s'est formé politiquement sous Poutine. Donc il a vu le système se construire, se renforcer, se durcir, se débarrasser de toute opposition. Il a été vraiment aux premières loges pour voir tout ça, parce qu'il était dans le processus aussi.
Salut Véronika.
Bonjour.
On prend donc le temps dans cet épisode de s'intéresser à Ilya Yashin, que tu as réussi à interviewer en prison il y a quelques jours, si je ne me trompe pas, en ce mois de mars de 2024. Ça fait 2 ans qu'il a commencé à purger sa peine dans des conditions qu'on imagine très difficiles. Avant de rentrer un peu dans ce qui fait la personnalité d'Ilya Yashin, est-ce que tu peux nous faire un peu de contexte? Nous raconter les barrières, les conditions d'incarcération qu'il faut surmonter pour pouvoir entrer en contact aujourd'hui avec un opposant comme lui?
Alors, Ilya Yashin est actuellement en Oudmourtie, dans une prison qui est à 1200 km de Moscou. Et c'est très loin, donc ça rend très compliqué les visites, par exemple, pour ses avocats ou pour sa famille. En revanche, la seule chose peut-être qui fonctionne à peu près bien et qui maintient le contact des prisonniers russes avec l'extérieur, c'est un système de correspondance. Donc, tous les prisonniers russes, sauf vraiment ceux qui sont totalement isolés du monde, ont le droit de recevoir du courrier en prison et de répondre. Ce courrier est envoyé par voie électronique en langue russe, reçu par le pénitencier, lu par les censeurs, et si ça passe la censure, transmise aux prisonniers, je crois, sous forme imprimée. Donc ils reçoivent en fait des feuilles A4 avec les lettres imprimées. Et ensuite, eux rédigent le courrier, les réponses, et les transmettent de la même manière par courrier électronique. Donc ces lettres partent vers l'extérieur. Yashin, contrairement à Alexei Navalny, ne passe pas son temps en cachot punitif parce que Navalny, la dernière année, ou même à partir des 2 dernières années, je crois, passait 15 jours au cachot punitif, en sortait, passait 24 heures en cellule normale et retournait au cachot punitif, à l'isolement total, dans des cellules qui ressemblaient à des poches de pierre. Donc c'est lui qui le dit, c'est lui-même qui le dit, mes conditions de détention sont sévères, sont dures, mais sont supportables et ne sont pas aussi difficiles que celles d'Alexei Navalny.
Comment cette idée d'entretien t'est venue, en fait? Et est-ce qu'elle remonte à longtemps?
Alors déjà, il se trouve que Ilya Yachin, je l'ai suivi, alors pas complètement depuis ses débuts, mais en tout cas moi j'ai commencé ma correspondance à Moscou en 2009-2010 et j'ai suivi toutes les manifs de 2011 où il fait partie des leaders d'opposition qui sortent un peu, qui commencent à émerger, qui sont sur la scène et qui prennent la parole de manière très, très articulée, très construite et que je trouve très intéressante. À l'époque, il fait partie de l'entourage de Boris Nemtsov, qui est à ce moment-là le principal leader, en tout cas le plus connu et le plus virulent opposant à Vladimir Poutine. Et Yachin, c'est un peu son dauphin, c'est son ami, il le suit partout, ils sont dans un mouvement qui s'appelle Solidarnost. Solidarité, avec des drapeaux orange, ils sont dans toutes les manifs. Et Yachin faisait partie des opposants très accessibles. Et quand la guerre commence, la Russie envahit l'Ukraine, on est en 2022, et Ilya Yachin décide de rester en Russie. Des gens qui étaient autour de lui, et des opposants aussi, un peu moins connus, un peu moins, voilà, mais qui étaient dans les cercles de l'opposition, quittent la Russie parce qu'ils ne sont plus en sécurité, ils le savent. Et lui dit « je reste ». Donc à ce moment-là, il faut se rappeler que quand la guerre commence, les derniers petits espaces d'expression libre en Russie sont fermés. Les médias indépendants, les derniers, sont interdits. Et les gens qui veulent continuer à parler migrent sur YouTube. Donc ça avait déjà un peu commencé, mais là, ça devient vraiment leur dernier espace d'expression. Et donc, Ilya Yachin, comme beaucoup d'autres journalistes ou opposants, lance sa chaîne YouTube où tous les deux jours, je ne sais plus avec quel... régularité, il s'assoit face caméra devant un micro et il commente l'actualité et il dit tout ce qu'il pense, alors que les lois sur la censure ont été durcies, alors que dénoncer la guerre a été criminalisé. Il continue. Il critique cette guerre, il critique l'invasion, il critique le pouvoir, il critique nommément Poutine. Il dit tout ce qu'il pense et ça, il le dit tous les jours sur sa chaîne YouTube et il s'est fait arrêter.
Justement pour ça, pour avoir critiqué, ou en tout cas pointé du doigt, les crimes de guerre russes menés en Ukraine.
Quand il a été jugé, la pièce à conviction pour sa condamnation est un stream YouTube dans lequel il explique que la version donnée par le ministère de la Défense russe sur ce qui s'est passé à Boutcha est fausse. Et que, donc à Boutcha, on se souvient, exaction terrible sur les civils de cette banlieue de Kiev pendant l'occupation russe, que le monde entier découvre après le retrait des troupes russes. Donc on a ces images qui nous ont brûlé les rétines de rues jonchées de corps, de civils. Et ces images apparaissent et le narratif du Kremlin, c'est que c'est une mise en scène, que c'est les Ukrainiens qui se sont fait ça à eux-mêmes et que tout ça, c'est pour critiquer, déstabiliser et pour dénigrer la Russie. Et donc Yachin, ce qu'il fait, c'est qu'il avait déjà consacré des streams en plus à Boutcha, donc il en avait déjà parlé. Mais le stream qui va être retenu contre lui, c'est celui où il dit « ce que dit le ministère de la Défense ne correspond pas à la réalité parce que voici les preuves ». Donc en fait, il fait un truc de journaliste. C'est pas un billet d'opinion qu'il fait même, c'est vraiment du fact-checking, quoi. Il montre les photos, les images, les documents à l'appui, il explique que voilà ce qui s'est passé à Boutcha, voilà ce que dit le ministère de la Défense russe. Il ne dit pas la vérité. Et c'est ça qui a été retenu contre lui. Et donc, il est accusé de dénigrement de l'armée et qui est une
et de propagation de fausses informations.
De propagation de fausses informations sur l'armée russe qui est passible de 8 ans de prison. Et c'est la première, et c'est pour ça que c'était aussi symbolique, c'est la première peine aussi lourde prononcée à ce moment-là pour cet article, parce qu'il est arrêté pendant l'été 22. Le rouleau compresseur a commencé à rouler et Yachin était très visible et très vocal. Donc, il s'est fait arrêter parce qu'en plus, il a pas pris de précautions particulières. Et parce que ceux qui ont continué à parler comme il parlait lui, et qui le font toujours, sont à l'étranger, sont plus en Russie. Il n'y a plus personne qui parle comme ça de l'intérieur de la Russie.
Au final, il a, même si ce n'est pas, peut-être on va y venir, hein, le successeur de Navalny, je ne sais pas, c'est à toi de me le dire, mais il a une caractéristique commune, c'est-à-dire qu'il pense qu'un opposant politique, il vaut mieux qu'il soit emprisonné en Russie aujourd'hui plutôt que d'être en exil, comme d'autres, je pense à Mikhail Khodorkovsky ou Garry Kasparov, qui eux sont à l'étranger. Peu importe les risques, pour mener le combat, il faut être en Russie. Est-ce que ça définit vraiment le genre d'opposant qu'il est et son combat ?
Absolument. Et c'est vraiment une manière de voir les choses et qui est aussi une manière très réaliste de comprendre quel impact tu peux avoir ou pas. Yachin, il ne faut pas l'oublier, a commencé sa carrière politique au milieu des années 2000. Il était très jeune, mais dans les mouvements de jeunesse démocratiques, libéraux en Russie. Dans le parti, il y a Bloko aussi, et puis Solidarnost avec Nemtsov. Il connaît très bien la difficulté de se faire entendre et de se faire comprendre en Russie même et d'avoir un impact sur le cours politique des choses en Russie. C'est un vrai vétéran de la vie politique, même du poutinisme, parce qu'il a fait ses armes, il s'est formé politiquement sous Poutine. Donc il a vu le système se construire, se renforcer, se durcir, se débarrasser de toute opposition. Il a été vraiment aux premières loges pour voir tout ça. Parce qu'il était dans le processus aussi, parce qu'il était dans les partis, parce qu'il était, il essayait de participer à des élections, parce qu'il était militant, parce que il n'était pas, c'était pas juste un observateur passif. Et donc, ayant expérimenté tout ça à une période où on avait encore la possibilité d'être opposant sans finir nécessairement présent, et sachant toutes les difficultés, même en temps de paix, il savait que d'autant plus aujourd'hui, quand tout est vissé, quand tout est fermé, quand tout est interdit, être hors de Russie, on devient totalement inaudible et on ne devient personne. Et en plus, il a sa première petite mort quand même, c'est quand il perd son ami Boris Nemtsov qui se fait assassiner sous les murs du Kremlin en 2015. Il jure à ce moment-là qu'il va continuer le combat et qu'il ne va pas se laisser intimider et qu'il ne va pas laisser ce qu'il appelle déjà un régime criminel et assassin. Qu'il ne va pas les laisser prendre la main sur l'avenir de la Russie. Donc il est vraiment très très décidé depuis longtemps.
Boris Nemtsov, ancien ministre sous Boris Eltsine avant les années 2000, donc avant le premier mandat de Vladimir Poutine, qui a été le dernier opposant politique vraiment électoral, on va dire, à Vladimir Poutine.
Il n'a jamais réussi à se faire élire non plus, mais il a été très vocal et surtout il a dénoncé Poutine très tôt et de manière très très virulente. Il a dénoncé la guerre dans le Donbass, il a dénoncé l'annexion de la Crimée, il a dénoncé les crimes du Kremlin. Il a jamais louvoyé, il a jamais accepté de collaborer et en même temps on lui a jamais proposé. Mais il n'a pas réussi à passer la barre. Il avait fondé un parti qui n'avait pas réussi à se faire enregistrer. Donc de toute façon il a toujours été resté sur la touche, mais parce que le Kremlin et Poutine et le régime poutinien très tôt a mis en place un système de non-alternative. En fait, toute opposition était écartée de la vie politique.
Et sur la photo derrière Nemtsov, il y avait Yashin, il y avait Navalny, dès 2011, sur ce front anti-Poutine.
Alors, en 2011, quand Poutine doit être réélu pour, alors à l'époque, on a perdu le compte, troisième mandat, je crois, les élections de 2012. En 2011, à l'orée des législatives, il y a des législatives à la fin de l'année en Russie, ensuite la présidentielle de 2012. Et pendant cet automne-là, c'est le moment où l'opposition se réveille et où justement émerge Alexei Navalny, Boris Nemtsov, qui est déjà un peu connu mais qui prend la parole de plus en plus. Et il y a ces fameuses manifestations qui commencent à Moscou et puis qui ont lieu ensuite dans toutes les grandes villes, rassemblant des gens qui ne sont pas d'accord qu'on leur vole leur droit de vote. Et en fait, ça commence sur les législatives qui sont frauduleuses, où le parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, qui est toujours le parti au pouvoir, remporte un maximum de voix, mais avec beaucoup, beaucoup de fraudes et documentées à ce moment-là, parce que c'est à cette époque, il y a encore des observateurs dans les bureaux de vote. Donc, il y a un suivi de ces élections, elles sont frauduleuses, les Russes s'énervent, sortent dans la rue avec des panneaux. La première fois depuis que Poutine est au pouvoir qu'il y a publiquement comme ça une foule, même si c'est peut-être pas énorme, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et puis après, ça monte jusqu'à 100 000 ou même 200 000 selon certains calculs, de gens qui disent non à Poutine, non aux fraudes, non au parti des escrocs et des voleurs, qui est un slogan inventé par Alexei Navalny. Et à ce moment-là, tout ce qui existait d'opposition à Vladimir Poutine s'unit. Donc sur la scène, on a des gens extrêmement différents qui sont de bords politiques totalement inconciliables, mais qui sont unis autour de cette idée qu'ils ne veulent plus de ce système, ils ne veulent plus de ce régime, ils veulent des élections libres et ils veulent avoir le droit de choisir.
Всю дорогу меня спрашивают, а зачем ты пришел на этот марш, марш мира и свободы? Зачем?
Si Nemtsov n'est plus là aujourd'hui puisqu'il est décédé en 2015, si Navalny n'est plus là puisqu'il est décédé en 2024, est-ce que ça fait de Yashin, pour toi aujourd'hui, l'un des opposants principaux au Kremlin et à Vladimir Poutine?
Par défaut, presque, oui. Et puis, ensuite, il en a la carrure, dans le sens où il en a l'expérience, il en a la force mentale et les convictions politiques et les idéaux. Ensuite, il est derrière les barreaux. Donc, il est déjà en position de faiblesse. Pour l'instant, il peut parler. Pour l'instant, il profite de chaque situation, de chaque audience pour prendre la parole Il fait de chacun de ses procès un moment où il monte sur la tribune et il rappelle pourquoi il est derrière les barreaux. Il essaye d'en dire un maximum sur ce régime qui est criminel, de dénoncer la guerre, de dénoncer Poutine, de dénoncer le système. Ça en fait un détracteur. Après, on ne peut pas parler aujourd'hui de son champ d'action est pas quantifiable, en fait, parce qu'il est vraiment, il est derrière les barreaux, il est à la merci du système. Et si demain, au Kremlin, quelqu'un décide, ça, même pas nécessairement Poutine lui-même, mais quelqu'un décide qui fait beaucoup trop de bruit, c'est très facile de mettre la pression, parce que tous les moyens sont là pour lui mettre la pression, parce qu'il est dans cette prison à la merci des matons, à la merci de l'administration de cette prison, du règlement de la prison qui peut être utilisé n'importe comment contre lui. Comme Alexei Navalny, on sait qu'il a été jeté au cachot parce qu'il avait mal boutonné sa veste ou pas répondu assez vite « bonjour ». Donc ça, n'importe quel prétexte peut être bon. Si il faut commencer à intimider et à pressurer un prisonnier, les moyens sont infinis. Mais pour l'instant, et il l'a dit aussi, c'est ce qu'il dit dans notre échange, c'est qu'il a peur. Et il me dit « oui, j'ai peur, bien sûr que j'ai peur, il faut être fou pour ne pas avoir peur ». Son ami, son compagnon de route politique a été assassiné en prison, donc forcément il a peur. Il a peur pour lui, il a peur pour ses autres amis opposants qu'il mentionne aussi, mais il veut être plus fort que cette peur.
Toi, il t'a écrit beaucoup dans vos échanges ?
Ce dernier échange était très nourri, très long. Il avait clairement très envie de parler.
Est-ce que c'est parce que c'était l'imminence du scrutin, de l'élection de 2024, de Poutine qui brigue un nouveau mandat ?
C'était surtout la mort d'Alexei Navalny, je pense, qui l'a bouleversé, parce qu'il le dit, qu'il a eu un moment où son regard s'est obscurci et une sueur froide a perlé sur son front. Donc ça a été un choc terrible, même si tout le monde savait ou s'attendait à ce que ça puisse arriver, le moment où ça arrive est totalement vertigineux. Et c'est un moment de sidération absolue. Et donc, Yachine exprime une urgence de parler tant qu'il peut parler, tant qu'il n'a pas été, lui aussi, réduit au silence, tant qu'il a cette possibilité de communiquer avec l'extérieur, tant que des médias s'intéressent à lui. Il essaie de suivre vraiment de très près ce qui se passe à l'extérieur. Et ça se voit dans cet échange qu'il est au courant de ce qui se passe. Il est au courant des dernières déclarations. Il est au courant des événements en Europe. Il est au courant de la manière dont se déroule la guerre en Ukraine. Donc, est-ce que c'est ses avocats qui lui apportent des nouvelles et qui lui racontent ? Est-ce qu'il a le droit de lire certains médias, certains journaux ? En tout cas, il se tient au courant. Il n'est pas du tout coupé du cours des choses. Et entre le tournant que prend la guerre, la mort d'Alexei Navalny, les élections et la nécessité pour lui de continuer à alerter, y compris en dehors de Russie, et y compris les Occidentaux, parce qu'il fait partie de ces Russes qui sont très patriotes de leur pays, mais qui sont totalement anti-Poutine, anti-Kremlin, et qui considèrent que la Russie doit être intégrée à l'Europe et à l'Occident et au monde en général. Donc il met sa foi dans ces liens-là. Et je pense que pour lui, c'était important de nous parler à nous, en dehors de Russie aussi. Et donc cet échange, alors moi j'ai envoyé une série de questions en espérant qu'il puisse répondre à toutes, et il m'a répondu vraiment sur 12 pages. Donc un texte très très long et visiblement réfléchi. Et ensuite j'ai reçu un message d'un de ses amis qui le connaît bien, donc personnellement, et qui m'a dit qu'il a mis toute son âme vraiment et tout son esprit dans ses réponses. Ça se voit qu'il avait besoin de s'exprimer.
Je n'ai appris la mort de Navalny qu'hier. Il est difficile d'exprimer mon choc, de trouver les mots face à la douleur et à cette horreur juste insupportable. Et pourtant, je pense qu'il est important de parler aujourd'hui. Je ne doute pas que Navalny ait été assassiné. Au cours des 3 dernières années, Alexei a été emprisonné sous contrôle total. Les forces de sécurité et les agents de renseignement de Poutine ont déjà essayé de l'assassiner en 2020. Ça n'a pas abouti. Maintenant, ils ont réussi. Je n'ai aucun doute sur qui a tué Navalny. C'est Poutine qui l'a fait.
On l'a dit donc, Ilya Yachin et Alexei Navalny sont des amis de 25 ans, à peu près. On a parlé de l'origine de leur rencontre au moment même où Poutine prend le pouvoir en Russie dans les années 2000. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que Navalny est mort, Yachin est prêt à assumer une sorte de relève ? Est-ce qu'on peut parler comme ça ?
Ça dépend comment on le dit, parce que la relève quand même va être assumée par Yulia Navalnaya, qui a dit quelques jours après la mort de son mari qu'elle prenait cette relève et que voilà, la lutte continuait. Donc Yachin, il continue ce qu'il avait entamé avant la mort de son ami et compagnon de combat, Alexei Navalny. C'est le temps qui nous montrera, je pense, en fait, si c'est lui qui prend la relève ou pas, ou quelle est cette relève, et si relève il y a. Ce qui est certain, c'est que lui continue son combat. Donc, je ne serai pas aussi linéaire, parce que ce qu'il avait dit et ce qu'il a fait, c'est prendre la relève de Boris Nemtsov. Et ça, il l'avait juré quasiment au-dessus de la dépouille de son ami, donc en 2015, sous les murs du Kremlin. En tout cas, là, ce qu'il dit, c'est qu'il ne se laissera pas abattre, qu'il continuera le combat contre le Kremlin, contre Poutine, qui était leur combat commun. Ils étaient côte à côte, ils n'étaient pas dans un rapport de hiérarchie. Yachine n'était pas dans l'organisation d'Alexei Navalny. Yachine, il a vraiment mené sa petite barque de vie politique en parallèle, en faisant campagne tout seul, avec les soutiens aussi, et tout ça c'était de bonne entente, mais quand il a fait campagne pour les municipales, d'abord d'ailleurs à Kostroma, dans une ville de province, avant de le faire à Moscou et de gagner à Moscou, il le faisait en tant que candidat indépendant, mais il ne faisait pas partie de l'organisation d'Alexei Navalny.
C'est une caractéristique, c'est qu'il a été élu,
Ilya Yachine a été élu municipal, à un moment où, en 2018, plusieurs personnalités se sont présentées dans les conseils de quartier à Moscou et ont réussi à rentrer dans les conseils municipaux. Et donc, il y avait une... Ce qui n'est plus possible. Peut-être que certains sont en train de terminer leur mandat, mais en tout cas, ça arriverait plus aujourd'hui. De toute façon, la manière dont ils faisaient campagne et ce sur quoi ils faisaient campagne serait illégal aujourd'hui. Ça fait plusieurs mandats qu'il n'y a plus de députés d'opposition au Parlement russe, à la Douma. Donc, il n'y a plus que des partis autorisés. C'était la première fois depuis longtemps qu'à Moscou, l'opposition avait réussi à rentrer dans les municipalités. Parce que dans des villes de province, il y avait encore des membres du parti Yabloko qui arrivaient à se faire élire, mais ce n'était pas vrai à Moscou. Et donc, ça a été vécu comme une petite victoire à ce moment-là. Mais la fenêtre s'est refermée très rapidement.
Alors, tu parlais de la peur qu'il t'a écrite, en tout cas, et qu'il a avouée dans cette interview. Une peur qui touche tous les opposants et tous les opposantes, encore plus depuis un mois et la mort de Navalny. Quelle forme peut prendre cette lutte? Ils ne sont pas élus ni au Parlement, ni dans les conseils municipaux. Ils ne sont pas présents à l'élection, puisque le seul opposant là, Vladimir Poutine, c'était le Parti communiste, qui a fait 5%. Donc juste pour comprendre, cette opposition et cette lutte qui était vampirisée par la personnalité de Navalny, qui était très 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 présent sur les réseaux sociaux et en tout cas essayer avec son équipe de communication de continuer d'attiser en tout cas cette lutte de l'opposition russe. Comment on peut l'imaginer là, au lendemain d'une élection où Vladimir Poutine a encore réuni 87% des voix du scrutin, une participation annoncée de 75%, dans des scrutins où il n'y a plus d'observateurs internationaux et où il y a des dénonciations à chaque fois de problèmes dans les bureaux de vote?
Alors, ils continuent tous d'exister, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la Russie, continuent tous d'exister sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui perdure, c'est les chaînes Telegram, les chaînes YouTube. Donc, il y a une conversation de l'opposition. Ils ne sont pas inaudibles sur la dénonciation de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe en Russie. En revanche, en termes d'action, c'est très, très limité. Et... aujourd'hui, parler d'opposition russe, en tout cas dans le sens un peu traditionnel du terme, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas où elle est. En revanche, la société russe n'est pas monolithique. Cet espace qui avait été occupé par les détracteurs de Vladimir Poutine ou du Kremlin ou de Russie Unie ou les suiveurs de Navalny qui sortaient pour le soutenir est par exemple en train d'être occupé par les mères et les veuves et les femmes de soldats mobilisés en Ukraine. Donc il y a une espèce de nouvelle... Alors c'est pas de l'opposition, mais c'est une protestation. En tout cas pour les acteurs politiques, ceux qui sont à l'extérieur peuvent, et le font d'ailleurs, comme Yulia Navalnaya, faire le tour des chancelleries, prendre la parole à chaque fois qu'ils en ont la possibilité pour dénoncer, pour mobiliser, pour appeler à condamner Vladimir Poutine et son régime et la guerre en Ukraine. Mais tout ça, c'est du lobbying. C'est essentiel pour mobiliser les opinions occidentales, celles qui peuvent soutenir l'Ukraine, tenir tête à Poutine. Et voilà, donc c'est pas stérile, mais disons que cette action se porte plus sur les relations diplomatiques et sur les rapports entre gouvernements que sur la vie des Russes en Russie.
Et alors en Russie ?
Il n'y a pas vraiment de moyens d'opposition, mais des moyens de résistance qui se sont mis en place. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe que ce qui ne se voit. Et là, Poutine avait eu besoin de ce scrutin, de ce plébiscite à 87% pour pouvoir dire au monde entier « Regardez le pays entier derrière moi ». Mais c'est un score qui est dessiné, qui est fabriqué, qui ne correspond pas à la réalité. Et même s'il a une majorité de bulletins à son nom dans les urnes depuis le départ pour les élections de Vladimir Poutine, il n'a jamais été élu sans bourrage d'urne. Donc même ce chiffre-là, voilà, il ne veut rien dire. Et la résistance, c'est les gens qui sont venus et qui ont pourri les bulletins, sans pour autant dire pour qui ils étaient, mais qui n'ont pas voté pour Poutine, les gens qui ne sont pas venus voter, les gens qui vont simplement ne pas participer à certains événements, cette espèce de stratégie d'évitement, trouver des moyens de ne pas prendre part à ce système et à ce régime. Et ces moyens-là, ils sont très individuels, ils sont très particuliers. Après, on voit tous les jours, si on suit un peu sur les réseaux, il y a des partout dans les ascenseurs, sur les murs, il y a des petits graffitis, non à la guerre, des insultes à Poutine, mais c'est des micro-trucs. Mais on pourrait se dire que même ça, même laisser un petit tag dans ton ascenseur, c'est déjà un geste de courage, parce que c'est véritablement un État autoritaire qui vire vers le totalitaire, où toute dissension est très, très sévèrement punie. Donc, tous les gestes, en fait, de défiance sont des vrais gestes de résistance.
Avant de regarder justement un peu la photo des opposants que tu as commencé à faire, Navalny avait été d'abord condamné à 9 ans de prison, avant que pour extrémisme, il ait au total une incarcération de 28 ans. Est-ce que pour ses opposants, pour Yachine par exemple, ça peut être le même cas? Et est-ce qu'on peut avoir une escalade? Et est-ce qu'elle se mesure par rapport au fait qu'il va continuer de parler, continuer de propager les informations qui l'ont mené en prison?
Bien sûr, parce que un autre opposant, Vladimir Karamurza, qui est en prison, lui a pris 25 ans, je crois, de prison ferme pour extrémisme aussi. Donc, c'est des peines qui sont extrêmement dures et qui commencent à être distribuées. Et Yachine peut, par exemple, aujourd'hui, se prendre un nouveau procès pour quelque chose qu'il aurait dit depuis sa prison, parce qu'il continue, du point de vue du Kremlin, à dénigrer et le pouvoir et l'armée et à critiquer la guerre. Donc, en fait, tout ce qu'il dit, ça tombe dans la tirelire des choses condamnables du point de vue de la loi russe. Donc oui, ça pour l'instant, l'horizon, c'est que ça va se durcir. En même temps, est-ce que, et ça, il faut voir avec le temps, mais maintenant que Navalny, qui était vraiment l'épine dans le pied de Poutine, maintenant qu'il s'en est débarrassé, est-ce que les autres sont trop insignifiants et il va juste les laisser croupir en prison sans tellement aggraver leur cas? Peut-être. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira.
Un jour, je serai enfin libre. Je serai l'un de ceux qui devront faire de l'ordre dans ce foutu bordel. Je vais devenir l'un de ceux qui construiront sur les ruines du poutinisme une nouvelle Russie, libre et heureuse.
Aujourd'hui, on a en tout 1000 opposants et opposantes, dissidents ou dissidentes. Je crois qu'il y a une petite guéguerre sur le vocabulaire.
Non, c'est que dissident, c'est très marqué époque soviétique, et que opposant, c'est le terme qui a été utilisé ces dernières années. Apazits, c'est le mot qui est utilisé par l'opposition russe.
Ils sont 1000 aujourd'hui, comme Yachine, dans les geôles russes. Pour comprendre un petit peu, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de menace pour le Kremlin? Et est-ce que depuis la mort de Navalny, et on a peut-être parfois des figures qui remontent, comme on l'a vu à l'étranger ou à l'intérieur, qui émergent. Qui peut aujourd'hui constituer, alors si ce n'est un front uni, une opposition au Kremlin?
Mais en fait, on ne peut même pas poser la question comme ça, parce que même Navalny n'a jamais été une menace pour le Kremlin dans les urnes, par exemple. Il n'a jamais été question qu'il gagne, il serait resté en vie, il serait même resté à l'extérieur et pas en prison. Il aurait continué simplement à mobiliser, à faire tanguer le bateau, comme aiment dire les propagandistes russes. Mais il n'était pas une vraie menace, dans le sens où c'est aussi la folie de Vladimir Poutine et sa paranoïa de se sentir menacé par tout ce qui n'irait pas dans son sens ou qui ne serait pas dans la doxa du pouvoir. Et en même temps, la menace, elle vient de partout. Elle vient du régime lui-même qui se crispe tellement qu'il peut finir par imploser à force d'avoir tout interdit. Donc, on peut dire que voilà, ça, c'est une menace un peu abstraite. Mais en tout cas, les gens qui sont en prison aujourd'hui, ils menacent quoi? Ils menacent la crédibilité de Poutine, qui voudrait se faire passer pour un vrai démocrate ou pour quelqu'un qui respecte la liberté d'expression. Oui, dans ce sens-là, c'est une menace. Dans ce sens-là, c'est une tache noire sur sa réputation. Mais qu'il assume totalement, parce que c'est, voilà, parce que c'est le système qui les a mis en prison. Et ces gens qui sont, les 1000 personnes dont tu parles, c'est pas non plus tous des activistes et des militants politiques. Ça peut être des metteuses en scène ou juste des étudiants qui ont posté un truc qu'il fallait pas ou liké un truc qu'il fallait pas et qui sont en prison pour des articles politiques, qui sont condamnés pour mensonges, trahison, tout ça, mais qui sont pas au départ, comme Alexei Navalny ou Ilya Yashin, des acteurs politiques, mais qui sont des prisonniers politiques. En gros, est-ce que la question, c'est est-ce qu'un Nelson Mandela qui va sortir de la prison russe, c'était Alexei Navalny, le Nelson Mandela. Ou en tout cas, ses soutiens et ses adeptes voulaient le voir comme ça. On se disait que voilà, il va rester en prison très longtemps, pendant que Poutine est au pouvoir, et puis un jour il sortira, et puis c'est lui qui incarne l'avenir de la Russie, et ce sera un peu comme Nelson Mandela. Mais je pense qu'on se disait ça aussi, parce que c'est les parallèles qu'on pouvait faire, c'est ce qu'on a comme repère. Donc on se disait, voilà, il va ressembler à ça. Ce rôle-là, pour l'instant, n'existe plus. Alors, est-ce qu'il y a Yashin parce qu'il est courageux, parce qu'il prend la parole, parce qu'il parle bien? Est-ce que lui peut reprendre un peu ce rôle-là? C'est très dur à dire, il est en prison. Donc, de toute façon, sa voix ne portera jamais, ou pas pour l'instant en tout cas, suffisamment loin. Moi, je m'avancerai pas.
Pour finir avec les mots d'Yashin, qu'est-ce qu'il te dit, lui, sur l'avenir et comment il le voit?
Lui, il ne veut pas désespérer. Lui, il considère qu'il y a un avenir. Et il refuse de baisser les bras, il refuse de dire que tout est terminé, que Poutine est éternellement à la tête de la Russie, que Trump va revenir aux États-Unis, que l'Ukraine va perdre la guerre. Et il n'est pas du tout dans un discours défaitiste. Il est dans un... Et je ne pense pas que ce soit faux. Je pense qu'il y croit vraiment, parce que c'est aussi le fond de sa force et de son engagement. C'est qu'il a toujours cru, y compris dans les années les plus sombres, dans les moments les plus difficiles, il a toujours cru qu'il y avait une alternative, qu'il y avait un avenir possible pour la Russie, qu'il n'y a pas de fatalité en Russie d'être soumise à un régime autoritaire, qu'il n'y a pas de mentalité d'esclave du peuple russe qui ferait que jamais, c'est dans son ADN de ne pas pouvoir être libre. Il ne croit pas à tout ça, parce qu'il considère qu'il en est un exemple, lui, parce qu'il a réussi, lui, à naître et à grandir dans ce pays en étant libre, amoureux de la liberté et ayant une vision d'une Russie libre. Et donc ça, c'est ce qu'il essaie de maintenir et de promouvoir. Et il y a beaucoup de gens comme ça, y compris ceux qu'on ne connaît pas du tout, y compris ceux qui ne prennent pas la parole, y compris ceux qui ne sont ni en prison, ni même sur les réseaux sociaux. Mais il y a une couche de gens comme ça en Russie.
Merci beaucoup, Véronica, pour t'être rendue disponible pour cet épisode « Ilya Yashin, l'ombre de Navalny ». Je remercie bien sûr aussi chez Paradiso Média toutes celles et ceux qui ont permis de réaliser cet épisode. Marin Grisot à l'enregistrement et à la réalisation. Et Léa Varin pour la partie éditoriale. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'affaire. À très vite.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.